Bonsoir, bonsoir, bienvenue au fond près du radiateur, comme tous les mardis, 19h, 20h30, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous savez qu'on est rediffusé le vendredi matin pour les leftos de 7h à 8h30. Et aujourd'hui, grosse émission chargée sur les violences policières. Donc je vais d'abord vous présenter les copains qui sont donc ici avec moi sur le plateau. Yano.
Salut.
Tiffaine.
Salut.
Mado.
Salut, salut.
Et les copains à la technique.
Salut, salut.
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 Merci.
On va les citer quand même, Olivier, Raph et l'autre Meuto.
Voilà, exactement. Olivier, Raph et l'autre Meuto, on les a tous cités. Et donc, pour passer au sommaire de cette émission, on va d'abord vous parler du rendu du procès des inculpés de l'incendie du centre de rétention administrative de Vincennes. Voilà, on va écouter aussi un petit son, une interview donc de l'avocate Irène Terrel qui revient donc sur ce rendu et parler un petit peu de la manifestation qui a eu lieu samedi dernier. Et ensuite, on va passer au gros dossier de cette émission, donc sur les violences policières, où on va évoquer donc plusieurs affaires. L'affaire qui concerne Abdelilah El Jabri, donc qui s'est passée à Aulnay le 9 janvier dernier. L'affaire qui concerne Wissam El Yamni, qui s'est passée donc à Clermont-Ferrand entre la nuit du 31 au 1er janvier dernier. L'affaire qui concerne Ali Ziri, donc qui a eu lieu il y a de ça 2 ans, et l'affaire qui concerne Hakim Hajimi, qui a eu lieu en 2008. Voilà, donc on va parler de tout ça, et ensuite on aura aussi une petite rubrique FAF, dont je ne vous dis pas plus sur l'instant. Sachez en tout cas qu'elle reste dans le ton de cette émission. Voilà, donc gros sommaire aujourd'hui. On va, je pense, peut-être tout de suite commencer à parler donc du procès des inculpés de l'incendie du centre de rétention de Vincennes.
Voilà, voilà. Donc, vendredi 13 janvier, donc vendredi dernier, à 13h, comme on vous l'avait annoncé, il y avait donc le rendu du verdict de la Cour rapport à l'incendie du centre de rétention de Vincennes en juin 2008.
Donc, c'était la Cour d'appel.
Cour d'appel, voilà. C'était donc un appel qui avait été fait par la Défense. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner principalement le verdict. On va écouter l'entretien avec les avocates qu'on a pris un petit peu à chaud à la sortie de la salle, et puis on reviendra pour faire un ou deux commentaires. Donc, tout d'abord, pour ce qui a été du rendu, ça part donc de 6 mois d'emprisonnement ferme à 30 mois d'emprisonnement ferme. À savoir, donc, il y a une personne qui a pris 6 mois et 4 qui ont pris 24 mois et une qui a pris 30 mois. Le détail, c'est que il n'y avait pas de mandat de dépôt, donc ce qui veut dire que les gens n'ont pas été arrêtés immédiatement et qu'ils doivent aller voir le juge d'application des peines afin donc de voir si les peines peuvent être aménagées. Donc ensuite, à côté de ça, il y a bien sûr eu des sentences rapport à l'argent, parce qu'il y en a toujours. Et donc, il y a 2 personnes qui ont été solidairement donc, condamnées à payer 9 864 euros d'amende, ce qui est énorme. Et chacun des inculpés, par contre, doit payer 5 fois 50 euros de dommages et intérêts pour les policiers qui s'étaient portés partie civile. Voilà, donc on va s'écouter le petit entretien.
Juste avant, je voulais quand même rappeler que suite à l'incendie du centre en 2008, après une révolte des retenus à l'intérieur, le procès avait été entièrement fait à charge contre les retenus qui avaient été pris au hasard, entre guillemets, suite au visionnage des vidéos. Et donc que ce procès était tronqué dès le départ en ce qui concerne la première instance, comme l'appel. Ça avait été les mêmes magouilles. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on en a déjà énormément parlé dans l'émission.
Voilà, et puis on reviendra un petit peu de petites minutes après l'entretien, les entretiens qu'on va écouter. Voilà.
Acceptable, et notamment de l'état dans lequel étaient et sont encore les centres de rétention aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ajoute que la Cour a relevé, et ça par contre c'est très intéressant dans ses motivations, notamment la concentration de prévenus, de retenus dans les CRA artificiellement, a-t-elle dit, donc elle a retenu notre argumentaire à cet égard, artificiellement transformé en 2 CRA, alors qu'en fait il ne s'agit que d'un seul, puisque ce sont les mêmes personnels de surveillance, les mêmes personnels médicaux, etc. Donc la Cour a tout de même stigmatisé le caractère inacceptable de ces lieux de rétention. Et pour nous, bien évidemment, surtout à l'époque, ce centre de rétention-là avait été désigné par la CIMAD, toute une série d'associations qui y travaillaient, comme étant effectivement sujet à tous les dangers. Et jamais les pouvoirs publics n'en ont tenu compte. Donc nos clients, encore une fois, sont victimes de cette politique de l'immigration. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités et les pouvoirs publics vont être bien inspirés d'écouter ce que dit la Cour dans cet arrêt. Parce que par-delà les condamnations qui, en fait, à mon sens, résultent malheureusement d'une enquête et d'une instruction qui ont été menées en dépit du bon sens, comme on l'a démontré, et finalement de peines qu'il a fallu quelque part, si vous voulez, c'est un peu un jugement de salon, c'est-à-dire qu'à la fois on dit que quand même on avait raison, mais en même temps on ne veut pas désavouer totalement, bien évidemment, comme toujours, hélas, une enquête qui a été très mal menée. Mais les pouvoirs publics vont devoir s'inspirer de ce que dit la Cour, parce que les centres de rétention aujourd'hui, qui accueillent des familles, qui accueillent des enfants, sont dans le même état. Donc il va falloir quand même prendre un certain nombre de dispositions pour que notre pays accueille de manière digne les étrangers en France et ne les parque pas de manière absolument irrespirable dans des lieux où les garanties minimales de dignité et de sécurité ne sont absolument pas remplies. Vous remarquerez que la Cour a également stigmatisé le fait que les matelas étaient dans des matériaux qui n'étaient pas conformes aux normes et bien évidemment la responsabilité du pouvoir public à cet égard est engagée. J'avais obtenu il y a quelques années la condamnation dans un cas similaire de l'administration pénitentiaire puisqu'un détenu était mort dans sa cellule après que son matelas ait brûlé et qu'il ait été constaté par une expertise que ce matelas n'était pas conforme. Donc on est exactement dans le même cas, sauf que là c'est encore beaucoup plus grave parce que ce sont des retenus qui n'ont pas vraiment de surveillance adaptée, qui sont dans un univers concentrationnaire, c'est-à-dire en ce sens qu'ils sont beaucoup trop nombreux dans des lieux absolument pas adaptés et donc il y a une mise en danger d'autrui. Donc tout cela sera évoqué peut-être par nous et sans doute par nous devant le tribunal administratif. En tout cas, si, encore une fois, nos clients sont les victimes dans cette affaire et que nous ne pouvons pas être entièrement satisfaits de cette décision, néanmoins, je pense que c'est une décision qui tire quand même un certain nombre de conséquences d'une situation parfaitement anormale qui a mis des gens en danger, à savoir essentiellement nos clients, les retenus, et qui n'auraient jamais dû se retrouver poursuivis dans ces conditions-là. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus.
Il semble quand même que la mort de Salem Souli n'a pas été tellement prise en compte dans le réquisitoire là.
Effectivement, elle n'a pas du tout suffisamment été prise en compte, c'est bien évident. Néanmoins, la mort de Salem Souli, il faut quand même le rappeler, et c'est important, si vous voulez, elle n'est pas prise en compte dans les, comment dire, dans la motivation de l'ensemble des départs de feu, qui d'ailleurs, selon nous, ne sont absolument pas imputables aux gens qui étaient prévenus ici, et qui, nous le maintenons, ont quand même été plus ou moins interpellés au hasard, parce qu'il fallait quelques boucs émissaires, et ça, nous maintenons évidemment ça. Cela étant, la mort de Salem Souli dans des conditions absolument inadmissibles. Et j'espère que l'enquête sera reprise sur ce point, notamment à partir de cet arrêt, parce que Salem Souli, son état avait été déclaré incompatible avec la rétention. C'était un homme très malade, c'était un homme asthmatique, il a été laissé, et sur le plan humain, c'est totalement inacceptable, il a été laissé seul dans une cellule étouffante, on était au mois de juin, et il en est mort seul sur son matelas, et ça, c'est des conditions extrêmement graves. Cette mort-là est bien, c'est le résultat de cette politique-là.
Sur la culpabilité, évidemment, nous, on considère que tous devaient être relaxés. Et donc, on s'est battu pour une relaxe générale de nos clients. Donc, il est évident que 30 mois, 24 mois ou 18 mois, voilà, surtout qu'on a des clients qui sont toujours sans papier, hein, quelle que soit leur situation. Donc, c'est des condamnations qui restent lourdement sur les casiers judiciaires, même avec des aménagements de peine, et qui peuvent justifier après des procédures d'expulsion, en tout cas de non-régularisation pour nos clients. Donc l'important pour nous, c'est aussi leur situation administrative et leur avenir en France.
Et là, je pense que la question aussi des centres de rétention, parce que c'est quand même une question qui est quand même assez importante, comme toute prison, mais aussi les centres de rétention. Comment ça peut faire ou avancer les choses ou quelle vision vous en avez de tout ça quoi, en même temps.
Donc sur les centres de rétention, notre position est toujours la même, hein, fermeture des centres de rétention. On voit qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la durée et l'aggravation de la politique gouvernementale, on arrive à des situations d'explosion, donc des incendies, on risque d'en revoir. On voit en tout cas en quotidien des automutilations, des tentatives de suicide, le renvoi d'un père de famille il y a quelques jours, qui a des enfants qui sont ici, etc. Donc ça ne peut que malheureusement empirer si on continue dans ce sens-là.
Parce que là, il y a eu l'agrandissement, il n'y a pas tellement longtemps, du centre du Ménilamlo, hein, qui est l'un des plus grands centres de rétention en France. Comment vous pouvez agir là-dessus, justement, sur la fermeture de ces centres de rétention?
On nous avait par ailleurs annoncé que des salles d'audience seraient ouvertes au Ménilamlo. Donc voilà des ouvertures qui sont annoncées probablement avant les élections présidentielles. Donc on est lancé dans une bagarre contre ces salles d'audience, contre les audiences au sein du Ménilamlo. Voilà ce qu'on nous promet, nous, demain, hein, c'est ça. Et c'est cet immense centre d'internement administratif qui existe, hein, qui est déjà ouvert dans deux de ses parties. Donc c'est une bagarre constante et quotidienne contre cette réalité.
Voilà, donc ça c'est l'entretien qui a été pris, voilà, avec donc vous avez entendu Madame Terrel et Madame Boitel. Donc voilà, deux avocates. Savoir qu'ils étaient cinq en tout, hein, mais voilà, leur réaction un petit peu à chaud. Bien sûr, sur les petits commentaires, effectivement, entre ce premier procès qui était monté complètement à charge et de façon absolument décomplexée et ahurissante. Ce deuxième procès qui avait l'air de se dérouler plus dans les règles, on peut quand même dire la vérité, c'est qu'en attendant, même si quand le président a donné sa sentence et qu'il l'a expliqué, la seule chose qui a été reconnue, ça a été que le bâtiment n'était pas aux normes contre les incendies et donc que les extincteurs ne marchaient pas convenablement. Mais par contre, effectivement, il a complètement été passé sous silence le fait que cette révolte avait été une révolte qui avait eu lieu juste à la suite de la mort d'une des personnes incarcérées. Et donc c'est cette situation-là, une fois de plus, et ça on l'a vu à deux reprises, a été complètement mise sous silence. On ne s'y intéresse pas. Et c'est ça qu'on peut remarquer principalement. Donc on est face à, puisqu'on ne veut pas prendre en compte la situation et les faits, des sentences qui sont des sentences exemplaires, qui sont là pour plusieurs choses. D'une part, pour un peu dire à toute autre personne enfermée qui souhaiterait se révolter qu'il faut qu'elle fasse attention, parce que si elle se révolte, on ne prendra pas en compte sa situation. Et d'ailleurs, elle ira directement d'une prison à une autre, parce que ce n'est pas particulièrement de différence. Donc, d'annihiler hein, tout esprit de révolte, alors qu'on sait très bien qu'il y a des centres de rétention qui a des départs de feu dans toute l'Europe, régulièrement dans des centres de rétention. Et puis, bien sûr, la deuxième, c'est aussi... Deuxième conséquence, c'est aussi de faire peur sur un jeu qui est celui de jouer sur l'espoir que peut-être en sortant de son centre de rétention au bout du délai, on pourra être régularisé. Et là, bien sûr, c'est jouer sur le fait qu'avec une peine telle que celle-ci sur un dossier, bien sûr, la régularisation, elle est juste inenvisageable presque, hein, vu qu'on sait comment sont les conditions de régularisation actuellement. Donc un peu la double peine hein, pour ces gens-là, voilà. Et ça c'est ce qui se passe souvent, c'est ce qui se passe en général et c'est ce que l'État veut donner un petit peu comme ligne directrice. Et donc bien sûr hein, on peut pas ne pas noter le dernier commentaire voilà de Madame Boitel qui parlait de salles d'audience qui seraient ouvertes directement dans les centres de rétention, un premier qui serait ouvert au Ménilamlo, voilà, du fait que artificiellement on fait semblant que ces centres de rétention ils ont différents bâtiments et qu'à partir de là on essaye de construire des structures entières afin de faire que aussi bien la chasse et l'enfermement des étrangers soient passés complètement sous silence et qu'on ne soit au courant de rien. Et face à de telles décisions, y a des gens qui prennent des initiatives, des gens qui veulent donner une visibilité quand même à tout ça. Et pour l'exemple, donc il y avait la manifestation de samedi, le rassemblement donc devant le centre de rétention où toi t'étais, Yano.
Ouais, voilà. D'abord juste quand même finir par rappeler que effectivement tout tend au niveau de la législation et des lois qui sortent, tout tend à enfermer plus, à expulser, à arrêter, en tout cas d'une façon plus fluide tout ce tout tout toutes ces transitions d'immigrés. Et ça, ça c'est clair et net, et on en parle souvent dans l'émission, que bah, justement, toute cette législation tend vers ça, et aussi vers la criminalisation la solidarité qui va avec, qui s'exprime des fois dans les salles d'audience, comme pour le rendu de l'appel vendredi dernier, où tu as pu être et interviewer les deux avocates, où il y avait un peu de monde aussi en soutien. Et donc, le lendemain, avec un appel à manifester devant le centre de rétention administrative de Vincennes, où il y avait 200 personnes qui s'étaient rendues quand même, ce qui est quand même à noter un chiffre assez à la hausse, étant donné de la mobilisation très très faible ces derniers temps devant le centre de rétention de Vincennes. Rien à voir comparé à ce qui avait pu être fait en 2008, quand il y avait tout un tas de réseaux de solidarité, des fois 1500 personnes même qui allaient devant ce centre pour exprimer leur solidarité avec le retenu. Là, c'était 200 personnes, à savoir à chaque fois que ce genre de manifestation, elle est non déclarée, puisque comme tu disais, on essaye par tous les moyens de passer sous silence, ce qui permettrait d'exprimer une solidarité quelconque avec les gens enfermés. Donc, non déclarée veut dire qu'il y a de fortes chances que ça finisse au casse-pipe, donc arrestation de la part des qui ont un motif tout trouvé, donc participation à une manifestation non déclarée. Et même quand il y a un petit bâton qui traîne, des fois ça s'appelle attroupement armé pour les flics, comme quoi on passe très vite d'une case à l'autre. Voilà, exactement. Donc cette manifestation, elle a pu s'approcher du centre de rétention, c'était l'objectif, pour communiquer avec l'intérieur, puisque comme on le sait, il y a eu des départs de feu, même depuis le début de l'année, dans la nuit du réveillon du 31 décembre 2011, que depuis quelques jours encore, il y a pas mal de gens qui résistent, en tout cas à leurs expulsions. Comme on entendait aussi l'avocate, il y a toujours autant de mutilations, d'actes de désespoir, de tentatives de suicide. Bref, l'idée était de communiquer avec les gens qui sont enfermés à l'intérieur. Ça a été fait grâce à l'aide de pétards, de fumigènes qui ont pu être entendus et vus de la part des gens qui étaient dans le centre. Après, la manifestation a pris une autre direction pour se retrouver à un autre point du centre, et c'est là qu'elle s'est fait encercler par les flics, qui étaient vraiment super énervés ce jour-là et qui ont créé une nasse pour pouvoir après cibler des manifestants et les arrêter après visionnage de leurs petites vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout qu'ils ont essayé de casser très violemment cette manifestation de solidarité en interpellant des gens sur des critères fallacieux et en les chargeant de tout ce qu'ils pouvaient les charger, type attroupement armé, dégradation de biens privés et violence sur dépositaires de l'ordre public. Voilà, pour ceux qui sont passés en garde à vue et qui sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire et qui doivent pointer toutes les semaines au commissariat pour avoir manifesté leur solidarité avec les enfermés. Voilà ce que ça peut coûter quand les flics sont énervés un jour comme ce samedi 14 janvier. Et puis cette nasse, après, elle a été raflée. Hein. On peut parler d'une grosse rafle. Plus de 100 personnes qui ont été emmenées dans un ancien dépôt ferroviaire du 18e arrondissement, donc rue de l'Évangile. Alors on va sans doute en entendre beaucoup parler de ce nouveau commissariat, puisque à ce qui paraît, il y a quelques mois encore, il n'était pas encore sous ce nom, commissariat, maison de police. C'est un local administratif où on peut parquer énormément de gens. Il y a une cour avec des barbelés en forme de lame de rasoir, donc un espace véritablement concentrationnaire où effectivement on a été 100 personnes à être parquées dedans pendant plus de 4 heures, qui est la durée légale d'un contrôle d'identité, à peu près 5 heures entre le transfert dans le bus et le parquage dans ce lieu. Donc à noter, encore une fois, que les flics, des fois, ils s'en foutent de la loi et que s'ils peuvent te mettre un coup de pression, ils n'hésitent pas. Et puis, ce nouveau commissariat, donc je pense qu'il sera destiné à accueillir des foules de manifestants. Vu son ambiance, comme je disais, concentrationnaire, on essaiera de publier des photos si on en trouve sur notre site internet, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil, et c'est vraiment hallucinant qu'on puisse encore construire des endroits comme ça, que ce soit des centres de rétention, des commissariats comme celui qu'on a visité, donc rue de l'Évangile, des prisons toujours plus modernes les unes que les autres, mais qui visent à renforcer l'enfermement, l'isolement et le désespoir des gens qui sont emmenés. Je pense que c'est peut-être tout pour ce qu'il s'agit de Vincennes, en tout cas. Éventuellement, en ce qui concerne le procès, l'étape d'après,
c'est la cassation.
C'est la cassation.
La cassation, c'est pas encore décidé. C'était donc aujourd'hui, le dernier jour pour lequel il fallait demander donc à être en cassation ou pas. On n'a pas les informations. Quand on les aura, on les donnera. Simplement à savoir, cassation, c'est tout un tas d'autres démarches. Donc il faut trouver des avocats qui peuvent se permettre d'être pour, de se pourvoir en cassation, parce que c'est des formations particulières. Et puis, c'est énormément de temps, souvent. En attendant, on sait que, voilà, lorsqu'on est en procédure avec la justice d'un pays, ça peut aussi être un moyen ou un outil d'enrayer plus ou moins voilà, des démarches d'obligation de quitter le territoire ou d'autres choses de ce type-là. Et donc, bah, à ce moment-là, nous, on se tiendra juste au courant et puis on laissera bah, voilà, les inculpés juger de ce qu'ils souhaitent. Simplement, peut-être, bah, voilà, pour terminer ce petit moment, sur un peu les politiques de migration, à savoir, bah, voilà, mettre des gens dans des centres de rétention, c'est aussi, faut aussi pouvoir les y mettre. Pour pouvoir les y mettre, il faut les chasser. Et bah, on a eu quand même une petite brève sur voilà, apparemment donc une chasse aux sans-papiers qui s'est déroulée donc lundi dernier donc dans les rues de Barbès vers la Goutte d'Or, où apparemment donc on a eu le droit à d'une part des flics en civil donc qui apparemment faisaient le tour de différents restos etc pour vérifier s'il n'y avait pas des sans-papiers qui travailleraient au black, et d'autre part des CRS qui chassaient dans la rue, voilà, apparemment ça a raflé énormément dans la journée, plus d'une vingtaine de personnes déjà. Et puis, le dispositif s'est déployé dans le quartier entier et a duré jusqu'à la fin d'après-midi minimum. Donc voilà, et on nous dit que les civils arrêtaient en continu voilà, des gens, et qu'une seule personne donc, aurait réussi à s'enfuir, qui a été tout de suite donc, poursuivie par une grosse meute de civils, voilà, qui ne voulaient vraiment pas qu'elle s'enfuie. Donc, bah, comme on l'a souligné avant, hein, c'est toujours la même chose. Effectivement, le principe, c'est que la solidarité face ou contre à la machine à expulser, c'est quelque chose dont on ne veut vraiment pas, parce que la machine à expulser, c'est aussi tout un business, et que évidemment, il ne faudrait vraiment pas l'enrayer. Et donc il faut faire attention. Et des fois, on vous le dit, juste rester à côté, regarder quand les gens se font contrôler, dire qu'est-ce qui se passe, bah, ça peut filer un coup de main et ça peut servir à quelque chose.
Et sur la solidarité, n'hésitez vraiment pas quand vous voyez que vous êtes témoin de ce genre de rafle avec un dispositif policier important, souvent dans des quartiers pauvres comme Barbès, mais aussi le Château Rouge, Gare du Nord, Belleville des fois. N'hésitez pas aussi à appeler à la radio en journée pour balancer les infos. C'est 01 40 05 06 10, le numéro du direct. Chaque émission, normalement, est censée répondre à cet appel et au moins diffuser l'information et permettre en tout cas qu'une solidarité puisse s'organiser s'il y a lieu, quoi.
Donc dans ce sens-là, nous, on va vous faire passer un appel à rassemblement d'ailleurs qu'on vient d'avoir juste avant l'émission. Donc apparemment, donc aujourd'hui, le CSP 75 aurait occupé donc la commission primaire d'assurance maladie qui se trouve dans le 11e arrondissement. Et suite à cette occupation, bah, ils se sont fait virer et arrêter. Et donc, il se trouve au commissariat du 11e arrondissement, apparemment pour l'instant en vérification d'identité. Et donc, c'est rue Passage Charles Dallery. Et donc, bah, voilà, il y a un appel à rassemblement. Et si vous avez... c'est pas grave. Nous, on a une... Si vous n'avez pas envie d'écouter la fin d'émission, ou même si vous avez envie, nous, on a une adresse Internet. Donc, si vous avez un peu de temps et que vous pouvez y passer, vous pourrez toujours télécharger l'émission à un autre moment.
Voilà. Et la CSP 75, c'est le comité des sans-papiers du 75. Donc,
dont on avait eu l'occasion de vous parler lorsqu'ils avaient occupé pendant longtemps voilà, la Bourse du Travail de République, de la Place de la République.
Voilà, bah sur ces dernières infos, on va passer un petit peu de musique au fond près du radiateur et on se retrouve tout de suite après.
Je suis un arabe non daté, extrait d'une langue poulet grattée, d'un dressage raté. Par les chemins barrés, je traîne les marques typiques des fragments d'Afrique qui ont poussé sur le sol froid des briques, des cris et des griffes périphériques, 30 piges d'absorption toxique. Et j'ai le souffle bref d'un vieux poumon sans frère, sans remède à sa fièvre, à l'extrême côté des tripes et des lèvres. Au creux des cages de fer, chaque verrou a son horaire, et l'heure me presse aux pulsions réfractaires les plus sommaires. Dans le Paris des muselières, je marche l'arme légère, un pied de biche en bandoulière, une effraction intime, un kéfier noué à chaque rime. Je trinque sec à la santé d'une émeute légitime, et puis un coup aux heures volées au fond du trou, j'apprends à me tenir debout, sur ce mince fil qui manque de casser d'un coup, sur ce mince fil qui me sépare des fous. Je suis un arabe repris en sursis, m'a-t-on dit, une tige d'ortie promise aux ennuis, et qu'il en soit inscrivé, greffier, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier, à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa 1er. Inscrivez greffier, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier, à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa 1er. Ici l'usage est de ramper, de lécher, maton répété, les yeux et l'âme courbés à portée de pied. Ici l'usage est d'apprendre à se tenir, comme on apprend à se voir souffrir, comme on pose des cadenas sur l'avenir. Vu et revu, je suis un arabe mon avenue, rompu au grand art du tir à vue. Une teigne connue, des rubriques du chahut et des chasseurs d'intrus. Et la peur me précède, à chaque fenêtre ouverte où j'ai le malheur de mettre la tête et de planter ma silhouette. Cette peur, son odeur, ses chiffres, ses penseurs, ses marchands, ses clients, ses balles sifflantes en châtiment. Cette peur par milliers de programmeurs tient, son ministère, ses gardiens. Cette peur au poids de plomb, par décret d'application, par folle exhortation à chaque veille d'élection. Cette peur à la faveur du pouvoir et de l'argent, cette peur qui fatalement finira par changer de camp. Nous sommes des foules, à marcher les deux pieds couverts d'ampoules. Sous l'édifice en flammes, attend bien que mal dénouer nos drames. Jusqu'à quand, combien de temps, le ghetto restera-t-il aussi patient? Jusqu'à quand, combien de temps, le ghetto restera-t-il aussi patient? Inscrivez greffier, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier, à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa 1er. Inscrivez greffier, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier, à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa 1er. Inscrivez greffier, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier, à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa 1er. Inscrivez greffier, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier, à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa 1er.
C'était Inscrivez greffier du groupe La Rumeur, et vous êtes de retour au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM comme tous les mardis soirs à 19h. Je vous rappelle les petites adresses utiles, c'est le www.aufondprèsduradiateur.fr, c'est notre site internet si vous voulez télécharger toutes nos émissions en podcast et voir les différentes choses qu'on y met en plus. Et puis on a une adresse mail où vous pouvez nous envoyer des communiqués, des infos et plein de choses d'autres, du son aussi si vous voulez. C'est aufondprèsduradiateur en attaché, en minuscule, sans accent, @no-log.org. Voilà, c'était une adresse mail. Et puis bah, nous on continue cette émission. Donc sur le sujet principal, on va parler des crimes policiers, des crimes racistes et sécuritaires, comme on a des fois l'habitude de dire, puisqu'il s'agit de ça. Et puisque voilà, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers jours et ces dernières semaines. Et Mathéo, tu vas commencer tout de suite par évoquer la mort d'Abdel.
Voilà, exactement. Donc on va parler de quelque chose qui s'est passé donc la semaine dernière, hein, mardi dernier, mardi soir, pendant que nous, on sortait de l'émission. Ce qui s'est passé, c'est un contrôle de police, hein, comme souvent, ça commence comme ça. Donc, dans le hall d'un immeuble de la cité Balani à Aulnay. Voilà. Et donc, en fait, intervention de la police qui s'est soldée tout simplement par le décès d'Abdelila El Jabri, qui avait 25 ans. Et qui est mort, en fait, sur place, menotté par les flics. Les flics ont appelé les pompiers qui ont été incapables de le ranimer. Donc voilà, voilà un peu sur ce dont on va parler. Alors la première chose, souvent, et c'est bien de Yano, tu as raison de dire les mots, de dire que c'est des crimes policiers, souvent au faciès, hein, donc à caractère raciste, qui sont commis tous les jours, et c'est comme ça qu'il faut les désigner, parce que très rapidement on se retrouve face à une autre propagande, la propagande donc médiatique, hein, et tout de suite quand on parle de quelqu'un qui est mort aux mains de la police ou dont la mort peut être imputée à la police, on parle, vous avez remarqué sans doute, très souvent de toxicomanes. C'est toujours des toxicomanes, c'est des gens dangereux qui consomment extrêmement de drogue, etc. On insiste toujours comme ça sur les, surtout dans les premiers communiqués, hein, c'est important la façon dont on présente pour la première fois l'information. Ensuite, vous pouvez corriger la version, mais on aura tous quand même entendu la première version. Voilà, donc sans surprise, hein, dans les articles, un article de 20 minutes là, que j'avais trouvé, les policiers nous expliquent que Abdel venait de consommer un dérivé du Viagra déconseillé aux personnes cardiaques. Abdel était une personne cardiaque. Et donc, ça suffirait à expliquer pratiquement... La mort d'un jeune homme de 25 ans. Bon, c'est un petit peu léger. Surtout que là, dans un autre article, on a un détail. Visiblement, il y a un copain à lui qui témoigne et il en avait pris. Mais la semaine, enfin, plus d'une semaine avant les faits. Donc bon, on comprend mal comment la prise de Viagra il y a 10 jours puisse tuer un homme de 25 ans. Donc, ce à quoi un policier interrogé dans l'article répond : si on devait se procurer le certificat médical de ceux qu'on arrête, on n'interpellerait plus personne. Alors, vous imaginez bien que s'il n'est pas question de se procurer le certificat médical, mais bien d'utiliser des techniques qui ne résultent pas par la mort des prévenus, quoi. Parce que sinon, qu'ils soient cardiaques ou pas, c'est quand même le travail entre guillemets de la police. Hein, ils sont quand même payés pour faire ce qu'ils font, de faire en sorte que les gens qu'ils interpellent ne meurent pas pendant qu'ils sont entre leurs mains. Voilà. Pour tout de suite tirer ça au clair, on va parler de l'autopsie. Hein, parce que, évidemment, c'est une des étapes importantes dans ce genre d'affaires, de comprendre un peu comment la personne est vraiment morte, hein, qu'il y ait une analyse là-dessus. Pardon, avant, je voudrais quand même revenir sur le déroulement, hein, visiblement, comment ça s'est passé. Ce sont des civils qui sont arrivés donc, en Ford Focus banalisé. Ils sont arrivés, visiblement, ils ont commencé à insulter les jeunes qui étaient présents. C'était trois jeunes, semble-t-il. Un des jeunes qui était là explique « À partir du moment où t'es jeune, pour eux, t'es une racaille. Ils parlent mal, sans respect, comme si on était des chiens. Ils nous traitent de fils de pute. Quand on est tranquille, posé sur un muret dans un hall, ils nous cherchent. Leur phrase favorite, c'est « Alors, vous ne nous provoquez pas aujourd'hui ». Voilà, donc on voit donc que le quotidien, c'est quand même des policiers qui viennent provoquer les jeunes. Et quand ils essayent de l'interpeller, ils l'interpellent violemment, ils le menottent, ils le maintiennent au sol, ils l'ont plaqué contre le sol comme un malpropre, on nous décrit. Et bah, tout simplement, il en est mort, quoi. Donc pour ce qui est de l'autopsie, la première autopsie a conclu sans surprise, encore une fois, que le décès n'avait rien à voir avec l'intervention de la police. Hein. C'était en raison d'une malformation cardiaque que Abdel était mort. Hein. C'est en conséquence d'une rupture de l'aorte due à une malformation cardiaque qui proviendrait elle-même d'une maladie génétique. Hein. Donc on ne va pas faire chier la police pour les maladies héréditaires. Et voilà, aucun traumatisme et aucune trace de coup n'ont été relevés par le médecin qui a effectué l'autopsie. Alors là-dessus, on voudrait juste insister sur quelque chose qui est important, c'est que souvent, la première autopsie qui est faite, elle est souvent faite dans ces affaires de façon à disculper la police. Et c'est très souvent le cas. On va pouvoir avoir l'occasion d'en parler quand on va parler tout à l'heure du cas d'Aliziri. La première autopsie ne concluait pas à une responsabilité de la part de la police. Il y a eu évidemment une contre-autopsie qui était tout à fait accablante pour les flics en question, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, en tout cas, on garde toutes nos réserves sur les résultats de cette autopsie, et on attend éventuellement de voir ce qui aura lieu par la suite. Alors, pour ce qui est d'Abdel, il y a eu une marche donc de solidarité qui a été organisée vendredi dernier. À 13h30, hein, qui se dirigeait vers le quartier Balagny, allée de la Catalogne, devant l'immeuble donc où il était mort. Et voilà. Donc pour conclure rapidement, d'une part une affaire à suivre, d'autre part parce que c'est pas du tout dit que les flics soient disculpés. Deuxièmement, le fait qu'il ait une maladie cardiaque ne justifie absolument pas qu'un jeune homme de 25 ans meure entre les mains de la police. Et troisièmement, ce fait s'ajoute à une série d'autres affaires qu'on va évoquer en partie dans cette émission, qui relèvent d'une bonne vieille tradition française, des contrôles, des rafles au faciès, d'une gestion policière de la population, et on voit les résultats que ça donne. Le dernier mort, c'était mardi dernier à Aulnay.
Voilà, et cette journée du mardi 10 janvier a quand même été assez noire dans cette histoire de crime perpétré par la police, puisque c'était le jour aussi donc, où Abdel est décédé à Aulnay. C'est le jour où Wissam El Yamni est décédé suite à son coma, donc aussi à Clermont-Ferrand. On en a un peu entendu parler dans les médias, puisque c'est vrai que là, encore une fois, tous les témoignages qui concordent vers les charges qui pèsent sur les policiers, en tout cas, permettent à ce que cette situation soit un petit peu médiatisée. Pour combien de temps, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on peut lire dans les médias, c'est toujours les mêmes sornettes concernant la mort de Wissan. Puisqu'on va rappeler donc un peu les faits. C'était la soirée du Nouvel An, donc 31 décembre 2011, à Clermont-Ferrand, dans le quartier de la Gautière. Il est à peu près 2h30 du matin, et un contrôle d'identité des keufs sur un groupe de jeunes, voilà, qui sont posés sur un banc, sans doute en train de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre très tranquillement, à boire un peu et à fumer quelques pétards. Apparemment, il est avéré que... après plusieurs provocations de la police, selon des témoins qui étaient même présents avec Wissan ce soir-là, ça faisait déjà plusieurs heures que les voitures de la BAC tournaient autour d'eux et les cherchaient, les provoquaient. Et ben, effectivement, Wissan a jeté une pierre, voilà, sur les keufs, parce que c'est vrai que dans ces quartiers, on se sent souvent harcelé par les flics, par la gestion policière de chaque situation, comme tu as pu le dire, Mathéo, par ces contrôles au faciès, parce que il faut savoir vraiment à quel point règne une ambiance raciste déjà au sein des commissariats, mais à quel point le système met en place aussi ces contrôles, puisqu'elles permettent de faire du chiffre, et puis du chiffre criminalisant en plus les étrangers, puisque c'est souvent eux qui sont visés. Et donc, Toutes ces perspectives données par les ministres et les préfets permettent sur le terrain d'appliquer des contrôles et d'en venir à tuer des gens quand on est policier. En tout cas, il y a eu ce jet de pierre de la part de Wissan. S'en est suivi une course-poursuite dans la cité de Clermont-Ferrand, de la Gautière, et l'interpellation donc de Wissan, ultra musclé. On parle... De lâchage de chiens, donc pour interpeller suite à la course-poursuite de Wissan, la brigade canine, des voisins qui étaient en train de fumer une clope à leur balcon à ce moment-là, ont témoigné donc à des journalistes du Monde et de Mediapart. On va citer vite fait leur témoignage. Ils parlent de coups de pied au dos et au thorax, puis de coups de poing dans le visage. Voilà. Et puis après, il est emmené donc dans la voiture des keufs et transporté jusqu'au commissariat. Au commissariat, une femme policière retrouvera Wissan allongé dans un couloir, face contre terre, menotté dans le dos et complètement inerte. Elle préviendra le SAMU, qui l'emmènera quelques minutes plus tard à l'hôpital de Clermont-Ferrand, et qui signalera son décès. En tout cas, c'est son passage dans le coma très peu de temps après, et puis son décès le mardi 10 janvier dans la soirée qu'on a appris malheureusement. Il faut savoir aussi que la famille a été, et notamment la femme de Wissan, a été prévenue simplement le lendemain, donc 24 heures plus tard, 24 heures après les faits, pour leur dire que Wissan était décédé. Et puis, il n'y a aucun PV de garde à vue qui est notifié entre son transfert de la cité jusqu'au commissariat. Donc, on suppose aussi que les flics l'avaient déjà pour mort presque à côté d'eux dans la voiture. Et il semblerait même que, selon certains témoins, ils mettaient la musique à fond et qu'ils les entendaient rigoler et fumer des cigarettes. Donc, pour vous noter, pour que vous notiez un petit peu l'ambiance que règne parfois lors des arrestations, et même de plus en plus souvent, on va revenir un peu aussi sur l'image qu'on donne de Wissan juste après les faits, qui est très importante, puisque c'est les premières versions médiatiques qui sortent, comme tu l'as dit, Mathéo. En tout cas, c'est les choses qui restent un peu dans la tête de l'opinion publique, entre guillemets, quand on entend tout ça. Alors, c'est pareil. Là, Wissan, c'était un toxico. Il avait des traces d'alcool, de cannabis et de cocaïne dans le sang. Un soir de Nouvel An, on peut se dire que même si c'est même l'État qui nous autorise à faire la fête, pourquoi s'en priver ? En tout cas, ça paraît tout à fait normal qu'on soit un peu alcoolisé, un peu foncedé un soir de Nouvel An. Et encore une fois, ce qui ne justifie en aucun cas la mort de quelqu'un. Qu'il soit toxico, délinquant, qu'il ait une maladie cardiaque ou quoi, rien ne mérite ou rien ne justifie la mort d'un jeune dans un quartier, et en plus dans ces conditions-là où la police vient l'interpeller et où la police fait des siennes. Donc il y avait cette histoire de toxicomanie, il y a aussi eu cette histoire de jet de pierre sur les keufs. On l'a présenté forcément comme un émeutier, un délinquant, très rapidement. Alors effectivement, on peut se dire il a jeté une pierre. Alors après, est-ce qu'on peut aussi analyser cette situation? Pourquoi un homme qui se sent harcelé toute la journée, et encore plus le soir du Nouvel An, où il se retrouve avec ses potes en train de faire la fête dans son quartier, là où il a grandi toute son enfance, Eh bien oui, il peut se sentir harcelé par une patrouille de baqueux qui n'a rien à foutre d'autre que de venir lui casser les pieds ce soir-là. Et oui, il peut en avoir marre et péter un câble et jeter une pierre. En tout cas, on comprend parfaitement ce genre de réponse qu'a eu Wissan. Et c'est ce qui lui a valu en tout cas voilà, la mort, puisque visiblement, les policiers se sont acharnés sur lui. Et voilà, rien ne... Enfin, c'est visiblement lui qu'ils ont attrapé. Les autres ont réussi à s'enfuir. On peut se dire que ça en aurait été tout autant de n'importe quel lascar qu'ils auraient attrapé à cette heure-là. Il y serait passé. Et c'est encore ça qui est encore plus choquant, quoi. Il y a Monsieur Guéant, juste après les faits, très très peu de temps, qui dit l'interpellation difficile n'est pas le fait des policiers. Alors encore une fois, là, on se pose les questions à savoir... qui est du côté de qui, est-ce qu'on attend des conclusions d'une enquête ou pas. En tout cas, le ministre, lui, fait parler de lui directement et se positionne très clairement, comme d'habitude, du côté des policiers. Alors voilà, quand on a en plus le soutien du ministre derrière, c'est sûr que pour les keufs, on peut se sentir couvert et permettre toutes ces choses-là et toutes ces atrocités, vu qu'il y a un soutien derrière
de l'État.
De l'État, ouais, clairement, du ministre en tout cas. Et puis bah voilà. Et puis juste après cette arrestation, cette interpellation, bah il y a des jeunes, les copains de Wissan qui ont un peu pété un câble dans le quartier. Et tout de suite la réponse, ça a été le déploiement policier. Apparemment on parle de vingtaine de 200 policiers, de deux compagnies de CRS qui sont restés pendant plus de 10 jours sur le quartier de la Gautière. Ce qui est perçu, on peut le considérer comme normal par les habitants, comme une provocation. De plus, après la mort d'un de leurs proches, on envoie les flics pour essayer de faire taire toute révolte. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est dans la stratégie policière et dans la stratégie des ministres quand il se passe ce genre de choses. Tout est fait pour couvrir, encore une fois, les policiers. Et puis, bah, voilà, la seule possibilité qui reste pour la famille, pour les proches de Wissan et de tous les gens qui se font tuer comme ça par la police, c'est ce combat judiciaire, cette solidarité qui durera sans doute encore très longtemps, vu la lenteur de la justice sur ces affaires. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un comité justice et vérité qui s'est organisé pour demander déjà justice et pour être solidaire avec toute la famille, les proches de Wissan, et permettre aussi de subvenir aux frais d'avocat et aux frais de justice qui seront engendrés. Ce comité a organisé une manifestation le samedi 14 janvier, donc devant la préfecture de police de Clermont-Ferrand. Ils ont quand même réussi à accrocher une banderole sur la préfecture qui disait « pas de justice, pas de paix ». Et les slogans étaient « policiers, assassins ». Plus de 2000 personnes étaient présentes à ce moment-là, le samedi 14 janvier, donc devant la préfecture de Clermont-Ferrand. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est déjà solidaire avec la famille et les proches de Wissan El Yamni, qu'on est solidaire aussi avec les proches et la famille de Abdel El Jabri qui est mort aussi à Aulnay, et que on ne cessera pas de vous faire part de ces informations, en tout cas telles qu'elles sont et sans le regard de la propagande médiatique et du pouvoir, en essayant de mettre au clair tout ça et de combattre par nos moyens tous ces crimes policiers et
le silence autour de ces crimes policiers qui ont lieu tous les jours, quoi.
Exactement. Et puis, pour finir, on va surtout dire qu'une information judiciaire a été ouverte dans ce combat donc juridique qui va être mené par la famille et les proches de Wissan à l'encontre de deux policiers donc de la BAC pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Juste pour dire, quand c'est dans l'autre sens, quand c'est quelqu'un qui viserait un flic, c'est homicide volontaire, aggravé.
Direct.
Et c'est quand même beaucoup plus choquant de voir à quel point même la justice suit toujours ces affaires et suit en tout cas les propos des ministres en faisant vraiment le minimum qu'ils peuvent pour essayer d'inculper ces policiers, même quand les faits sont graves et avérés par des preuves manifestes. Et voilà, et simplement pour dire une autre info, pour voir à quel point on se trouve dans un flou total sur cette histoire, c'est que le bloc identitaire a tenté de manifester en même temps que les soutiens et le comité Justice et Vérité pour Wissam El Yamni, et qu'ils dénonçaient, eux, que les forces de police soient encore une fois et de plus accusées, voire condamnées avant toute conclusion d'enquête. Donc voilà, quand on a le ministre Claude Guéant et le bloc identitaire derrière, visiblement, on peut tout faire. On a le permis de tuer en France. C'était voilà, tout ce qu'on pouvait dire concernant l'affaire Wissan El Yamni. On va peut-être faire une pause musicale et on va revenir après pour parler des cas Ali Ziri et Hakim Hajimi, où la justice encore fait son travail et adresse des non-lieux aux flics impliqués.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des porcs armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout, des pierres et des cocktails balancés à genoux. Ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de noir et d'opprobre. Ni les horizons parés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène. Ni les gerbes fanées aux pieds des portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches usés par la chaîne, par le mépris et le temps. Ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd. Tout se transforme et le brasier crépite. Et le brasier crépite. Et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Près du radiateur, comme tous les mardis, 19h-20h30. Vous savez qu'on est rediffusé de 7h à 8h30 le vendredi matin. Et si vous voulez nous balancer des infos rapidement, notre adresse mail, c'est au fond près du radiateur, tout attaché en minuscule, @no-log.org, ou sur le site directement www.aufondprèsduradiateur.fr. Voilà, donc on est de retour dans cette émission avec un gros dossier donc sur les crimes policiers. Et donc maintenant, Yano, tu vas nous parler donc de l'affaire Ali Ziri.
Voilà, parce qu'on va revenir un petit peu quand même sur cette justice. Justice qui suit toujours inconsidérablement l'acte des policiers quand en tout cas ils donnent la mort à des jeunes dans des quartiers populaires. Puisque sur toutes les affaires et sans exception de crimes policiers, crimes racistes et sécuritaires, quand c'était pas le procureur, c'était le juge d'instruction, l'un ou l'autre en tout cas, tout le monde s'attelait à taire ces histoires et à ne pas condamner en tout cas les premiers concernés, les keufs, les policiers qui étaient impliqués sur ces meurtres. Et ce qui est à noter, et on va continuer de le voir, c'est que la justice suit toujours ses policiers. En tout cas, ils marchent main dans la main, ces deux institutions. Et on va continuer de le dire et de le prouver. On va parler maintenant de Hakim Hajimi. Hakim Hajimi, on en avait très peu parlé dans notre émission. Cette affaire s'était déroulée à Grasse. Donc Hakim Hajimi, il est mort le 9 mai 2008 à Grasse après son interpellation par la police. Il se trouve qu'on en parle puisque du 16 au 20 janvier, donc à partir du mercredi 16, c'était hier, se tenait le procès de 7 policiers qui ont participé volontairement ou involontairement à la mort de Hakim Hajimi au tribunal de Grasse, donc c'est du 16 au 20 janvier pour ceux qui sont dans cette région. Il y a un point d'info de 18 à 20 heures tous les jours durant le procès, donc jusqu'à dimanche, devant le tribunal. On va écouter tout de suite un membre du collectif Vérité et Justice pour Hakim Hajimi, donc c'est Walid, qui va nous parler donc de un peu de cette histoire et revenir un peu sur les conditions de l'arrestation, de l'interpellation et la mort de Hakim Hajimi. Voilà, on va écouter le son tout de suite.
Le comité, il s'est appelé Vérité et Justice pour Hakim. C'est parce que nous, par la bouche des témoins, donc le lendemain, la vérité, on l'avait. Donc notre problème, il a été immédiat. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé confronté à une police qui, justement, elle, n'a jamais dit la vérité, quoi. Puisque immédiatement, il fallait donc protéger donc leurs collègues, quoi. Donc le comité s'appelait Vérité et Justice pour Hakim, pour que tout simplement on prenne en compte les témoignages des 18 personnes qui sont venues le lendemain au domicile donc des parents de Hakim, pour nous dire la souffrance qu'elles avaient vécue la veille de voir Hakim mourir dans leurs yeux, quoi. Hakim, il a eu son différend donc avec le banquier. Donc là, ils ont eu une altercation. Hein, donc le ton est monté, bousculade. Bon, ça, je veux dire, on n'a pas d'éléments précis là-dessus. Hein. Ceci étant que le directeur, donc une fois que Hakim sort de la banque, appelle la police pour leur dire voilà, il y a eu un événement, tel individu habillé comme ça, donc vient de sortir de la banque, c'est passé ça. Donc il fait 500 mètres quoi, de la banque, et puis il est pas loin de chez lui, il doit y avoir quoi, 1 km de la banque à chez lui, et donc la police de la brigade anticriminalité, hein, elle entend donc l'appel radio commissariat, et donc elle propose de remonter le boulevard par lequel il descend et de l'interpeller, voilà. Et donc là il l'interpelle juste à côté d'une place publique en plein festival. Je crois que c'était à ce moment-là, c'était un festival de Grasse, la fête des roses. Et donc, il décide de l'interpeller. Il descend son collègue d'un côté. Un fait le tour avec la voiture, ils arrivent chacun d'un côté. Lui, il les voit arriver. Donc, il se met dos contre le mur. Il pose un pied contre le mur. Et il lui demande donc de le suivre. Et lui, refuse de les suivre. Et leur dit non, je viens pas. Pourquoi je viens pas. Je vais pas au commissariat. Et donc, là, les deux agents de la BAC décident de le prendre chacun par une des aisselles et de lui faire un croche-patte pour le faire tomber par terre. Mmh. Et donc, ce qui, pour nous, donc, a déclenché cette violence et cette haine, c'est à ce moment-là, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Hakim, il faisait 1m83, il pesait 65 kilos, paix à son âme. Et au moment où ils vont pour faire cette prise-là, c'est eux deux qui tombent par terre. Lui, en fait, il part donc les trois en avant, je pense. Et lui, je ne sais pas comment, il se retire en arrière. Donc, ils le disent eux dans leur déposition, hein, pour se défaire de leur emprise. Et là, c'est eux deux qui tombent par terre. Donc là, à mon avis, ça a dû enclencher donc une colère monstrueuse, parce que ils n'ont pas dû comprendre ce qui leur arrivait. Et donc là, il lui saute au cou et il lui met des coups, il le ramène par terre justement en le prenant par le cou et par les vêtements. Et donc là, voilà, donc là, une fois qu'il le ramène au sol, donc Hakim ne va pas se laisser faire. Hein, donc là, il, comme ils le disent eux, hein, donc il se débat violemment, non pas pour nous frapper, mais pour échapper à notre emprise. Et puis, il le menotte au bout, allez, d'une minute, deux minutes. Je vous dis ça toujours en suivant les dépositions, hein, leurs propos à eux. Donc, il le menotte par les mains. Arrive une équipe de la police municipale qui avait aussi entendu l'appel. Donc là, au bout d'une minute, deux minutes, il n'y a plus seulement les agents de la BAC, mais il y a en plus deux agents de la police municipale. L'agent de la police municipale se met sur Hakim avec les deux agents de la BAC. Donc là, il y a un agent de la BAC qui l'étrangle immédiatement avec l'avant de son bras. Il y en a un autre qui est assis sur son dos. Et puis, il y a le policier municipal qui s'assit dos à dos avec l'agent de la BAC, lui remonte les chevilles, lui met les menottes aux chevilles. À ce stade-là, vous avez deux agents de la brigade anticriminalité, plus un agent de la police municipale sur Hakim, et un autre agent de la police municipale qui est là pour contrôler le public. Ça, c'est le départ de l'interpellation. Voilà. À ce stade-là, Hakim est menotté par les agents de police. l'interpellation, on va dire, est terminée. Et malheureusement, pour Hakim, ben, c'est que le début de l'horreur qui a commencé, en fait. Hein. Donc là, un des deux agents se lève et lui met deux violents coups de poing dans la figure. Donc c'est son collègue qui étrangle qui dit deux violents coups de poing, mais lui, il dira un coup de poing. L'agent de la police municipale va lui mettre des coups, donc un coup de genou ou un coup de pied dans les côtes. Là, il y a un maître chien qui passe avec son collègue, hein, et il est maître chien, il dit « Mais arrêtez, vous n'avez pas le droit de frapper un homme à terre. Arrêtez, il est menotté, vous n'avez pas le droit de le frapper. » Donc lui, il intervient, carrément, physiquement, oralement. D'accord ? Il demande à ce qu'ils cessent immédiatement leur interpellation parce qu'il n'y a pas lieu de le frapper, puisqu'il dit, il est menotté, vous n'avez plus le droit de faire ça. Il leur dit comme ça, mot pour mot, toujours dans les dépositions. Et donc là, un des deux agents de la BAC se lève, et comme une voiture de police municipale arrive en plus, hein, je vous dirais, à la fin, ils étaient 13 hein, de police. Ils font donc embarquer ce maître chien et son collègue, qui essayent donc de faire en sorte qu'ils arrêtent. Voilà. Donc, il revient sur Hakim. Là, arrivent les motards, arrivent trois ASVP. Donc, on a une armada de policiers. Ils sont 7 ou je ne sais plus combien. Et ils vont parfaitement maîtriser la situation donc, pour ce qui est des badauds, ce qu'ils appellent, eux, les badauds. Mais par contre, ils vont continuer à étrangler Hakim. Donc, un des témoins, il dira qu'un de la BAC, il lui écrase la tête avec le pied. Voilà. Donc, ce que je vous décris, c'est les conditions dans lesquelles Hakim est mort, puisque donc là, il va y avoir un attroupement, mais parfaitement maîtrisé, qui va se faire, un bouchon, une circulation qui va se créer, et donc là, vous allez avoir une équipe de police complètement déchaînée qui va vouloir que Hakim ne bouge plus d'un doigt, ou d'un cheveu même, je dirais, vous voyez, et ils vont le tuer là, dans ces conditions-là, en fait, hein. Moi, vraiment, il y a beaucoup d'auditeurs qui entendent, mais il faut rester vraiment fidèle à des valeurs simples de solidarité, d'humanisme et vraiment de fraternité, quoi. Vous savez, ces symboles là, de la France qui sont même plus respectés aujourd'hui. Parce que si ils ne viennent pas, tous ces témoins, le lendemain, taper à la porte, la plupart d'eux tous pleuraient, en fait. Mais ce qui nous a fait mal, c'est qu'ils portaient une culpabilité. En fait, ils sont venus faire ça parce que tous culpabilisaient de l'avoir vu mourir sous leurs yeux. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il allait mourir, lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que, bon, il y a la police, tout ça. Pour eux, vous savez, cette peur du contrôle, là, cette peur du pouvoir en place. Donc peut-être qu'eux, ils pensaient que tout était sous contrôle, quoi. Malheureusement, là, tout n'était pas sous contrôle. Et ils ont vu, donc... Donc il y a un des témoins qui accepte toujours, hein, bien sûr, de déposer donc, cette semaine du tribunal, qui dira « Je l'ai vu essayer de prendre son dernier souffle et sa tête est tombée, c'est complètement relâché. » Une autre FB, elle dira « Je me suis écrié, il est mort. » Donc un ASVP, là, un agent de service de la voie publique, dira « Quand je suis arrivé, il avait le visage rouge. 10 minutes après, il avait le visage violet. » Voilà, imaginez en fait qu'on est en 2012. Voilà, je veux dire, au Moyen-Âge, c'était à peu près kiff-kiff. Donc voilà, est-ce que c'est l'époque ou est-ce que c'est ceux qui étaient dans leur tête, là, ils sont au Moyen-Âge, en fait. Et ils sont dans une violence et dans un conditionnement, en fait, haineux. Je veux dire, on ne peut être qu'épris par de la haine et d'un désir de vengeance, parce que quand un des deux agents de la BAC se déboîte l'épaule dans l'interpellation, c'est pas Hakim hein, qui le prend et qui le déboîte l'épaule, qui le plaque. Hein. C'est lui, en essayant de lui passer son bras, je sais pas comment, il avait donc déjà un premier accident, il se redéboîte l'épaule. Et à mon avis, donc la chute plus l'épaule déboîtée, ils ont voulu lui mettre une leçon terrible.
Voilà, donc on vient d'écouter Walid du comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi. Qu'on a eu par téléphone donc, sur FPP mardi dernier, c'était mardi 10 janvier. Et donc, voilà, c'est simplement pour revenir sur les péripéties judiciaires donc, du combat du comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi et de la famille et de ses proches, pour dire que là, on est donc, dans le procès de 7 keufs qui sont impliqués dans la mort de Hakim. Ça a d'abord été très très long, puisque on l'a dit, hein, c'était le 9 mai 2008 que Hakim est décédé. Et, Et donc, il y a des agents qui ont d'abord été placés en position de témoin assisté en 2008, qui ont été mis en examen en 2009. Ensuite, déchargés de toute responsabilité en 2010, puisqu'il faut dire que le tribunal d'Aix-en-Provence avait ordonné un non-lieu donc, en 2010. Et aujourd'hui, après de multiples contre-expertises, ils sont donc renvoyés devant le tribunal de grâce donc, en ce mois de janvier 2012. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne feront pas appel suite à leur condamnation, s'il y a condamnation. Donc tout ça peut encore durer très 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 longtemps. Voilà, comme c'est simplement aussi pour montrer à quel point la justice y met du sien à chaque fois pour faire traîner les choses, alors que voilà que les faits sont là et que visiblement les témoins, il y a eu plus de 18 témoins qui ont été entendus dans cette histoire, qui concordent tous à dire que il y a plusieurs flics vraiment impliqués dans ce qu'on appelle les clés d'étranglement. Et qui ont amené à la mort de Hakim Hajimi. Bref, tout ça pour dire que, pareil, ce comité vérité et justice détient des preuves accablantes de l'implication de ces policiers. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la réponse de l'avocat qui défend deux des policiers mis en cause dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que pour lui... je ne vois pas ce que, je le cite, je ne vois pas ce que l'on peut reprocher à l'un ou l'autre, ils n'ont fait qu'appliquer ce qu'on leur apprend à l'école de police. Voilà, ça c'est la déclaration donc, d'un des avocats des policiers qui montre à quel point tout ce petit monde est cynique dans sa démarche et en même temps à quel point le système est fait pour ça, est fait presque pour tuer ces jeunes des quartiers quoi.
C'est ça exactement, parce que moi je leur reproche à eux et à l'école de police en fait. Et à l'institution qui décide de quelles sont les techniques de combat qu'on apprend aux policiers afin d'arrêter des gens, à savoir que les clés d'étranglement tuent régulièrement des gens et qu'il n'est jamais nécessaire d'en arriver là si on veut immobiliser quelqu'un. Donc c'est que quelque part, on fait aussi appel aux techniques qu'on choisit.
Voilà, et puis on va continuer, voilà, donc ce qu'on pouvait dire pour sur la mort de Hakim Hajimi. On continuera de suivre cette histoire et pareil de vous en donner toutes les informations possibles. Simplement dire qu'il y a eu aussi une manifestation le 7 janvier, donc samedi d'il y a deux semaines, en mémoire de Hakim Hajimi, où il y a eu 200 personnes qui se sont rendues pour toujours faire pression sur la justice et continuer dans ce rapport de force-là. Voilà, on se tiendra au courant sur l'affaire Hakim Hajimi. On va continuer de parler des crimes policiers, des crimes racistes et sécuritaires, avec un autre cas qui est en ce moment évoqué, c'est Ali Ziri, c'était ce vieux monsieur de 69 ans qui était mort à Argenteuil en 2009, je sais plus, j'ai plus exactement la date.
Bref, c'était 2008.
2008, voilà, qui était mort en 2008 donc à Argenteuil suite à un contrôle pareil de police où il se trouvait donc sur la place du mort entre guillemets donc dans la voiture avec son compagnon Areski Kerfali. Ali Ziri est mort suite à ce contrôle. Areski Kerfali a survécu, mais en reste traumatisé. On va écouter tout de suite Omar, un membre du comité de soutien à Vérité et Justice à Ali Ziri, qui va revenir un peu sur les conditions d'interpellation d'Ali et sur sa mort.
Mais écoutez, Ali Ziri, c'est un monsieur qui a travaillé plus de 40 ans en France. Et puis, comme tout un chacun a droit à sa retraite, et lui, comme il est d'origine algérienne, eh bien, il va retourner en Algérie après sa retraite. Voilà, après 60 ans, il retourne au bled, comme on dit. Retrouver sa femme et puis ses quatre enfants. Et puis, il se trouve que l'un de ses fils doit se marier. Et donc, il revient en France pour faire quelques achats dans le cadre festif du mariage, etc. Et il rencontre un ami à lui qui est Areski Kerfali, qui est un vieux copain de route, puisqu'ils vivaient tous les deux au foyer des travailleurs à côté de la gare d'Argenteuil. Et tous les deux vont aller prendre quelques verres, comme pour fêter la retrouvaille et puis le mariage, etc. Et leur voiture, parce qu'ils ont bu un peu plus que la moyenne, leur voiture se fait serrer par les flics d'Argenteuil, la police nationale. Hein, ici, il n'y a pas de police municipale, c'est la police nationale qui est en manœuvre, c'est pas comme à Grasse. Et cette police nationale, au lieu d'interpeller très calmement Areski Kerfali, qui est le chauffeur, et Ali Ziri, qui lui est le passager, qui au jour d'aujourd'hui permet malgré tout qu'on puisse être en état d'ébriété en tant que passager, même dans un véhicule, eh bien ils vont se faire tirer du véhicule et ils vont se faire tabasser. Et là, il y a un tournant qui va se terminer par la mort d'Ali Ziri, pas parce que nous on l'a décrété, parce qu'il y a eu des expertises médicales dont je vais vous faire lecture tout à l'heure, qui démontrent sans aucune ambiguïté qu'Aliziri est mort dans les mains de la police nationale à Argenteuil, voilà. Et Arefi Kerfali va se faire tabasser. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Aliziri et c'est très important, mais n'oublions pas que justice et vérité, c'est aussi pour l'autre camarade qu'Arefi Kerfali, qui aujourd'hui il était déjà invalide à 60%, mais qui est sous médicaments, qui ne dort plus, qui ne mange plus, qui est sous médicaments, qui voit un psychiatre deux fois par semaine, enfin... C'est une véritable locumène, il est réduit à rien du tout, parce qu'à la fois il a la culpabilité d'avoir perdu son copain, et le pire c'est qu'il dit la justice ne m'est pas rendue aujourd'hui, c'est-à-dire que on refuse de reconnaître la culpabilité des policiers dans cette affaire-là. Alors Aliziri, lui, pour revenir à lui, eh bien quand il va se faire interpeller, ils vont se retrouver la tête contre le bitume tous les deux avec des pieds dessus, ils vont se faire latter comme c'est pas permis, et ils vont être embarqués au commissariat, par trois policiers, dont l'une des une policière, va exercer ce qu'on appelle une technique de pliage, c'est-à-dire qu'elle va, comme elle le dit elle-même dans sa déposition, parce que tout ça, on a des traces, parce que il y a eu des enquêtes malgré tout, même si c'est pas allé au bout du bout. La policière en question dit qu'elle a mis ses deux pouces au niveau des aisselles d'Aliziri et elle l'a plié comme ça, elle lui a ramené la tête sur le siège. Ce qu'on appelle la technique de pliage, et c'est cette même technique qui est responsable de la mort, si vous vous souvenez, en 2003, d'un travailleur sans papier éthiopien qui avait été expulsé par la police aux frontières et qui est mort dans l'avion, suite à cette technique-là d'ailleurs, qui a eu des suites, puisque cette technique a été interdite par la suite. Et bien malgré tout, cette policière va exercer cette même technique qui va être responsable de l'asphyxie mécanique. C'est-à-dire que sa cage thoracique ne peut plus se déployer pour respirer. Et je vous invite les uns les autres, les auditeurs, à bien entendre ça. Quand on a du mal à respirer, ça passe par la moelle épinière, c'est un réflexe. On se débat un peu plus pour pouvoir chercher de l'air, justement. Et c'est là où la policière exerce encore une pression encore plus grande. Et de fil en aiguille, eh bien, il va finir par avoir ce qu'on appelle une hypoxie. C'est un terme médical, mais il est simple. Hypoxie, ça veut dire manque d'oxygène dans le sang, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir oxygéner simplement l'ensemble de ses organes et il va mourir de mort lente, ce monsieur Aliziri, ce Chibani de 69 ans, et il va décéder dans les heures qui suivent à l'hôpital d'Argenteuil où il va être emmené un peu plus tard. Ça, ce sont les conditions d'interpellation à laquelle il faudrait ajouter tout de même qui peut être assimilé à un acte de barbarie, en tous les cas c'est ce que soulignent les deux avocats de l'affaire, à savoir que lorsque Aliziri, Arefi Kerfali, était au commissariat d'Argenteuil, étalé par terre, eh bien l'un des policiers va prendre, parce que Aliziri a vomi, il y a eu des vomissures évidemment dans cette affaire-là, il va marcher sur le vomi sans doute sans faire exprès, il va prendre après la tête d'Aliziri avec son pied et essuyer le vomi avec la tête de l'un des deux prévenus, et évidemment cet acte-là, qui est un acte hautement dégradant, peut être considéré juridiquement parlant comme un acte de barbarie, c'est-à-dire la barbarie, il faut bien comprendre, toute proportion gardée évidemment, elle existe aussi dans les frontières de la France, c'est-à-dire ici, la police se lâche sans problème pour exercer des actes ignobles. Mais là où c'est véritablement scandaleux, je me permets de faire un tunnel et un peu long, c'est que la justice suit colle, mais vraiment jusqu'au bout, au dire des policiers, et à aucun moment, elle ne met en doute la parole des policiers. Et je finirai là-dessus, parce que c'est une décision de la honte, on l'appelle la décision de la honte. Vendredi dernier, le procureur de la République vient de rendre une décision, il appelle simplement à ce que cette affaire se termine par un non-lieu. C'est-à-dire qu'il dit clairement, je veux me permettre de vous lire ce qui est écrit sur le texte en question. Et attendu que l'information n'a établi aucun acte de violence volontaire qui aurait été la cause directe ou indirecte du décès de Aliziri. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas eu de violence qui ont été effectuées sur Aliziri. Aucune faute directe involontaire n'est imputable à quiconque. Ce sont les conclusions aujourd'hui du procureur de la République qui appelle au non-lieu. À se demander même s'il n'y a pas une participation, comment dire, des responsabilités des services médicaux. La première autopsie, en effet, va déclarer que M. Aliziri est dû à une fragilité cardiaque, ils appellent ça précisément le terme utilisé, c'est une hypertrophie cardiaque, c'est-à-dire un cœur trop gros. Alors, au sens figuré, Alésiri était un bon gars et il avait vraiment un bon cœur. Mais là, en l'occurrence, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il avait une fragilité cardiaque. Une fois cette première autopsie passée, dont on ne sait pas vraiment qui l'a fait, dans quelles conditions, etc., les policiers demandent à la famille d'Alésiri le passeport d'Alésiri pour le renvoyer au bled, pour qu'il soit inhumé, etc. Bien évidemment, la famille a refusé. Et la famille, avec le collectif qui s'est mis en place, Justice et Vérité, avec une association qui s'appelle l'ATMF en particulier, qui a joué un rôle important, a refusé et a demandé qu'il y ait, évidemment, une expertise médicale de haute voltige, c'est-à-dire qu'on a demandé à ce que l'Institut médico-légal fasse une expertise médicale beaucoup plus poussée, beaucoup plus sérieuse. Et il y a une sommité en la matière, d'ailleurs c'est le responsable de l'Institut médico-légal qui va s'en charger, et qui va dire « mais non, pas du tout ». Il n'est pas mort parce qu'il a une fragilité cardiaque. Il n'y a aucun lien avec une fragilité cardiaque. Monsieur Alésiri est mort parce qu'on lui a comprimé la cage thoracique et il est mort donc suite à cette anoxie. Par ailleurs, cette même autopsie va montrer simplement qu'il y a 27 hématomes allant jusqu'à 17 cm pour certains d'entre eux sur tout le corps de monsieur Alésiri en disant, écoutez bien, certains hématomes sont en lien avec le maintien exercé par les policiers. Mais vous entendez bien, certains, ce qui sous-entend que d'autres hématomes, déjà en soi c'est scandaleux, mais ce qui sous-entend évidemment que d'autres hématomes ne sont pas expliqués par les positions de maintien des policiers, c'est-à-dire qu'on a porté des coups sur M. Alésiri, alors que, je le rappelle, M. Alésiri, au moment où il est extirpé de la voiture, jusqu'à l'hôpital, il est menotté bras dans le dos, c'est-à-dire qu'il est, à 69 ans par ailleurs, il est dans l'impossibilité de répondre physiquement à quelconque agression par ailleurs des policiers. Il est complètement à leur merci et les policiers, sans aucun doute, vont se déchaîner. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que l'expertise médicale est extrêmement claire là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les policiers en fonction, les policiers qui ont interpellé Alésiri Areski Kerfali et qui sont à l'origine qui sont liés à la mort d'Alésiri et des violences sur Areski Kerfali sont encore en fonction sur Argenteuil. Ils exercent comme ils exerçaient hier et Areski Kerfali dit « je suis malade quand je regarde par ma fenêtre » ou quand mon fils me dit qu'il s'est fait contrôler par la police et les mêmes qui l'ont contrôlé lui-même, eh bien il y a quelque chose de scandaleux. Eh bien les Argenteuillais et les Argenteuillais sont scandalisés aussi du fait qu'il n'y ait pas eu de sanctions contre les policiers en question.
Voilà, on va revenir justement au fond près du radiateur sur cette dernière phrase de Omar du collectif Vérité et Justice pour Alésiri qui se bat toujours et suite à cette décision de la honte donc, qui est tombée très récemment début janvier du procureur de la République de Pontoise donc, qui délivre une ordonnance de non-lieu en tout cas pour les keufs qui étaient mis en examen dans la mort de Alésiri. Est-ce que le juge d'instruction suivra ? Sans doute, puisque, comme on vous le dit depuis le début, la justice s'attelle à protéger les flics dans ces histoires-là. Ce qu'il faut dire sur ces flics, c'est qu'ils sont toujours en fonction à Argenteuil, que dans le cas de Wissan El Yamni à Clermont-Ferrand, les keufs sont en congé. Donc voilà, ils ont pris des congés, on tue des gens et après on les met en vacances. C'est voilà, encore pour montrer une fois de plus l'état d'esprit. Et à Grasse, et bien sûr, pour l'affaire Hakim Hajimi, ils sont encore en fonction. On suppose qu'à Aulnay-sous-Bois, vu la fraîcheur de cette affaire, ils doivent l'être aussi. Donc pour vous dire à quel point encore voilà, les keufs se permettent tout et ont la couverture de toute leur hiérarchie et se baladent après impunément dans les villes où il y a eu ces affaires pour contrôler, harceler encore les gens et voire même les tuer. Voilà, ça a été difficile d'être complet dans ces histoires de crimes policiers, surtout quand il s'agit de la vie d'hommes et que de nombreux soutiens de proches se bougent à côté d'eux pour que déjà toute la lumière soit faite et parce que c'est aussi la seule façon de combattre que de mener ce combat juridique puisqu'on voit à quel point tout est étouffé au-delà de ça. Ça a été difficile ce soir d'être très complet, d'évoquer tous les détails de ces affaires, mais en tout cas, vous pourrez retrouver toutes ces infos-là et ces analyses et les témoignages des gens qui sont mobilisés là-dessus sur notre site internet www.aufondpresduradiateur.fr. Voilà, on va continuer cette émission avec un peu de musique juste avant la rubrique FAF.
Yeah. Le droit de tuer. Un flic de faction à l'affût d'un peu d'action, attendant l'occasion d'égayer son gun pour un carton. À son actif, un flot d'arrestations bilan. Suspect menotté, non noté au fond du fourgon. Sans raison, l'escadron, les flics te passent à tabac. Coup bas, couché coupable ou pas, t'y coupes pas. Insultes balancées dans la lance et des coups donnés. Ça s'acharne à cogner comme un chien sur un os à rogner. Tu dois baisser la tête quand les bêtes approchent à prête. À te poisser les menottes, prends la poudre des scampettes. Pour sauver ta tête, zigzag pour éviter les balles, éviter l'étiquette. Au pied à cause d'un bout de métal, mets les voiles d'étal quand le gyrophare s'emballe. Sale boulot fait par des sales mecs si tu cavales. La mort te fauche en boule de course à coups de rafale fatale. Tes parents pleurent à genoux devant ta pierre tombale. Shooter, un flic se les fout. Pour une mère le monde s'écroule, de ses yeux les larmes s'écoulent. Shooter, un enfant s'écroule, devant ses yeux sa vie déboule. Sur ses joues le sang coule. Shooter, un flic se les fout. Le monde s'écroule, de ses yeux les larmes s'écroulent. Shooter, un enfant s'écroule, devant ses yeux sa vie déboule. Sur ses joues le sang coule. Écoute la suite sur le beat, le flic en action effectue l'arrestation sans poser de questions. Dans la tradition, plaqué, suspect, fouillé. Le flic sans respect sur sa gâchette, le doigt crispé. Rêve de cribler sa victime d'une balle ajustée. Sa justice, molester l'enfant d'à peine 15 ans passé. Tu mouilles et tu continues à le fouiller, crop. Stop tes foutaises, flic de choc, tu débloques. Le cerveau disloqué, trop d'alcool ingurgité. T'as fini de cogiter, l'animal ressurgit fatigué. Écoute les peurs du gosse menotté à sa chaise. Le flic à l'aise joue le balèze, avec son gun il pèse. Les 10 grammes de hashish, pas de fous pour le bachiche. Le flic fâché le fiche, le flash pour le cliché. Un canon sur la tempe, l'enfant finit par flipper. Le faciès figé, le flic finit par tirer. Shooter, un flic se le fout. Mère, le monde s'écroule, de ses yeux les larmes s'écroulent. Shooter, un enfant s'écroule, devant ses yeux sa vie déboule. Sur ses joues le sang coule. Shooter, un flic se le fout. Pour une mère, le monde s'écroule, de ses yeux les larmes s'écroulent. Shooter, un enfant s'écroule, devant ses yeux sa vie déboule. Sur ses joues le sang coule. Troisième étape pour mon comeback sur la track, j'attaque. Le flic à la matraque qui traque le métèque. Coma technique pour tous les types trop typés. Laissés sur le carreau par l'escadron des salons. C'est la couleur du costume qui en dit long sur leur coutume. Coutumier du fait, le flic opère sur le bitume. L'esprit embrumé par l'alcool comme à son habitude. Il aime bien châtier bien la sentence est bien rude. Inattitude à faire régner la paix, le flic est fêlé. L'arme de service lustrée, le bon droit pour tuer. Pourri jusqu'à la moelle, il se dévoile quand il fait feu. Sur la dope qui prend la fuite. Quel est le plus véreux des deux? Shooter, un flic se le fout. Pour une mère, le monde s'écroule, de ses yeux les larmes s'écoulent. Shooter, un enfant s'écroule, devant ses yeux sa vie déboule. Sur ses joues le sang coule. Shooter, un flic se le fout. Pour une mère, le monde s'écroule, de ses yeux les larmes s'écoulent. Shooter, un enfant s'écroule, devant ses yeux sa vie déboule. Sur ses joues le sang coule.
Retour sur Au fond près du radiateur 106.3 FM et tout de suite la rubrique Faf.
Qu'est-ce qu'il y a?
La rubrique Faf.
Je traque les Faf.
I'm ready.
Voix de gauche, même son de client qui sonne faux.
C'est un scandale.
Je traque les Faf. Je traque les Faf en costard.
Les partis politiques pilotent.
La gauche caviar. La droite de la droite au pouvoir.
Faf,
faf,
profit, corruption,
faf,
faf.
Tu veux mon nom,
au fond près du radiateur.
Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Voilà, et cette semaine, la rubrique Faf va être un peu moins festive et humoristique que d'habitude. Et pour l'introduire, je vous propose de lire un extrait d'un article de Métro qui date du 15 décembre 2011. Un immense soulagement a rompu une tension extrême dans la salle des assises des Alpes-Maritimes. Les trois gardiens de la paix poursuivis pour le viol d'une prostituée ont été acquittés après seulement 2 heures de délibéré, ainsi qu'un quatrième qui était poursuivi pour non-assistance. Voilà, pour les quatre policiers, l'heure était aux embrassades après 4 jours d'audience pénible. Voilà, c'est ça, en gros, la version de Métro de l'affaire dont on va parler aujourd'hui. Alors, vous en doutez, hein, quand une jeune femme accuse des policiers de viol, nous, on regarde quand même ça de près, parce qu'on a, on a tendance à pas forcément croire le premier article qu'on trouve. Et donc, toujours est-il que, pour revenir à cette affaire, les 4 gardiens de la paix, 3 d'entre eux étaient accusés de viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, et au quatrième, on lui reprochait son abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne. Voilà, alors il s'agissait de la nuit du 23 au 24 février 2010, autour de 2h du matin, une patrouille de 4 agents du service de sécurité de proximité de la ville de Nice arrête son fourgon à la hauteur d'une jeune femme qui, donc nous dit l'article, racolait un verre de boisson alcoolisée à la main. Voilà les termes qui sont utilisés. Donc, selon le procureur, parce que cette affaire, évidemment, a été jugée, les policiers ont expliqué vouloir protéger la jeune femme d'un rôdeur qu'ils avaient repéré. Mais en tout cas, il se trouve qu'ils n'ont pas averti le commandement de leur intervention, donc on peut émettre des doutes. Toujours est-il que la jeune femme, elle est montée dans la camionnette de ces policiers et qu'il est avéré que 3 des gardiens de la paix en question ont eu des relations sexuelles avec elle, tandis que le plus jeune, le quatrième, attendait sans intervenir. Voilà, alors après le départ des flics, la jeune femme appelle le 17 pour porter plainte. Les agresseurs présumés, hein, toujours présumés dans ces cas-là quand il s'agit de policiers, sont identifiés, ils sont suspendus, et donc on va en venir au jugement, donc ce qui nous occupe. Alors, évidemment, pendant l'audience, les flics sont présentés comme des fonctionnaires sans tâche, exemplaires jusqu'à cette nuit-là. Et il se trouve que la version de la femme, elle diffère un peu de la version qu'ont donné les flics. Elle explique que les flics sont arrivés en lui reprochant sa consommation d'alcool sur la voie publique. J'ai d'abord pris ça sur le ton de la plaisanterie, mais j'ai compris qu'ils allaient m'arrêter. J'étais coincé dans un véhicule avec 4 policiers, puis on m'a emmené dans un coin sombre. Que pouvais-je faire ? Ils m'ont dit « c'est toi la professionnelle, tu sais ce qu'il faut faire ». Alors j'ai fait une passe. Voilà. Donc ça, à nouveau, hein, donc les relations sexuelles entre cette jeune femme et 3 policiers en uniforme sont avérées. Et quand on demande à la cour d'assises de juger ce type de fait, les questions qu'ils posent à la jeune femme, c'est « Par votre attitude, auriez-vous laissé entendre que vous étiez consentante ? Avez-vous eu un rôle exclusivement passif ? Avez-vous obéi à des instructions ou bien avez-vous pris des initiatives ? » Et donc, c'est clair que ce qu'on cherche, c'est le moindre geste qui pourrait être interprété comme un consentement et, évidemment, ce qui permettrait de faire tomber l'accusation de vol. Entre parenthèses, pour ce qui est des contraintes subies par la jeune femme, visiblement, le président de la cour d'assises est vachement moins intéressé.
Simplement pour souligner d'ailleurs, hein, c'est pas pour en faire des montagnes, mais à savoir que ces questions-là, c'est pas des questions qu'on pose que aux prostituées, c'est des questions qui se passent dans toutes les affaires de viol. C'est-à-dire qu'à chaque histoire de viol, on demande aux jeunes femmes si elles ont pas eu l'air d'avoir un petit peu envie quand même, si elles étaient pas un petit peu suggestives de façon à tout de même. Ensuite, ce qui est intéressant, effectivement, là, tout de suite, maintenant, c'est que en plus du fait que ces questions peuvent paraître absolument aberrantes, il y a la question du fait que qu'est-ce que juge le tribunal. C'est-à-dire, est-ce qu'il juge des personnes morales ou est-ce qu'il juge à un moment des faits ? Donc, effectivement, là, quand même, ce qu'on voit principalement, c'est que le problème par rapport à cette affaire, c'est qu'on est face, d'une part, au niveau des agresseurs, pas face à un grand noir avec une cicatrice, comme on nous le décrit depuis quelques jours, comme le nouveau violeur du 15e arrondissement, mais qu'on est face à 3 policiers, et qu'au niveau de la victime, on n'est pas face à une pauvre jeune femme épleurée, mais face à une prostituée. Donc à partir de ce moment-là, la cour va juger en fait, de façon tout à fait morale et va dire, bon, alors d'un côté, il y a les gens qui d'habitude sont là pour vous protéger. D'autre côté, il y a la jeune femme qui, d'habitude, fait commerce bon de son corps. Alors, est-ce que vraiment elle s'est fait violer ou est-ce que, bon, quelque part, est-ce que vraiment on peut dire quelque chose là-dessus ou pas ? C'est ambigu tout de même.
Voilà, tout à fait. Et donc, toujours est-il que donc on a cherché à établir des gestes qui pourraient indiquer que la jeune femme consentait à la relation sexuelle avec trois policiers dans un fourgon de police. Et les flics vont même plus loin. Ils expliquent que c'est limite si elle n'a pas pris énormément de plaisir. Elle nous a chauffé, elle était très avenante, etc. Donc, ils sont même assez contents de ce qu'ils ont fait. Et quand on leur demande « Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Vous ne pensez pas qu'elle était un peu contrainte ?» l'avocat général Éric Camus, parce qu'on balance les blases, répond « Peut-être pour se mettre bien avec les agents en question. Ça arrive avec des commerçants. Ils ne veulent pas qu'on les paye. Que voulez-vous qu'on fasse ?» Donc carrément, donc c'est pas seulement dans les cas de viol dans un fourgon de police, mais carrément dans toutes leurs activités quotidiennes que ces flics limite reconnaissent avec candeur que bah oui, ils violent la loi assez régulièrement et que finalement ça a pas l'air de gêner grand monde. Alors malgré les réquisitions de l'avocat général, 10 ans pour le chef de patrouille et 8 ans pour les deux autres, 1 an pour le non-participant, la cure et les jurés ont prononcé l'acquittement des prévenus, hein, sans surprise si vous avez suivi le début de cette émission. Alors le parquet général d'Aix-en-Provence a fait appel, donc le dossier sera à nouveau jugé. Et je voulais terminer quand même par vous donner quelques détails. Les flics en question appartiennent, donc comme on prête attention à ça, au GSP, le groupe de sécurité et proximité de Nice, hein, si vous habitez par là, voilà, éventuellement vous le savez, et que les 4 flics en question ont, semble-t-il, déjà un dossier très chargé. Ils ont donc déjà, on a déjà trouvé qu'ils avaient commis des menus larcins et qu'ils avaient profité de leur autorité et de leur uniforme pour, par exemple, s'exonérer de frais de bouche dans des bars et des restaurants, etc. Donc, et non seulement ça, mais que leurs copains de la police les ont laissés, en fait, alors même qu'ils étaient visés par une enquête, hein, et suspendus officiellement, ensemble, plusieurs heures, de façon à ce qu'ils soient capables de concerter leur version. Et donc, voilà, on voit comment, avec quelle objectivité sont traités les délits ou les crimes dont la police pourrait éventuellement être coupable.
Voilà. Je pense que c'était bien de finir sur cette histoire, sur la rubrique FAF, puisque voilà, ça dénote toute une attitude policière qu'on a essayé d'évoquer tout au long de cette émission. On va tout de suite enchaîner avec Tom, ancien camarade de l'émission, qui nous appelle de loin parce qu'il a une information à nous donner. On va l'écouter tout de suite. Allô, allô.
Bah, salut à tous déjà. Bravo pour cette émission qui était... qui donnait beaucoup d'informations, même si c'est pas très gay. Et ce dont je vais vous parler, c'est pas très gay non plus. C'est une information qui est tombée ce matin et qui était importante peut-être de donner quand même dans cette émission. C'est une information, c'est qu'un ex-continental, un ex-employé de l'usine continentale, donc qui avait mené une lutte il y a quelques années déjà, il y a un an ou deux, suite à la fermeture de leur usine, il s'est jeté sous un train ce matin, juste en face de l'usine de Clairoy, qui est vraiment juste à côté de la voie ferrée. Et donc, il s'est suicidé. A priori, il aurait laissé une lettre pour expliquer son geste. Elle n'a pas du tout été publiée, la lettre. Mais je pense que quand on fait ça devant... S'il a fait ça devant cette usine, c'est qu'il y avait un lien. Ça permet aussi d'évoquer le fait que, nous, on est jeunes. On se rend compte que trouver du boulot, c'est pas tous les jours facile. Mais alors, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui a 45 ans comme lui? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ont cet âge-là et qui se retrouvent licenciés du jour au lendemain alors qu'ils ont toujours bossé dans ces boîtes qui sont en train de fermer, d'être délocalisées de plus en plus? C'est le résultat de tout ça. C'était quelqu'un qui avait mené cette lutte comme les 1110 continentales. Et qu'on menait une lutte qui était quand même très forte et qui a boosté beaucoup de luttes dans la région. Et faut noter aussi que c'est pas le premier, c'est le deuxième suicide d'un ex-conti, puisque le 16 juillet dernier, il y avait déjà l'un d'entre eux qui avait été retrouvé pendu chez lui.
Ok, écoute, merci Tom pour cette info qui est tombée ce matin. Et en tout cas, on est solidaire avec tous ses proches, sa famille.
Grosse pensée à ses proches et à tous les continentales. On espère qu'ils vont continuer à se battre. C'était que le début visiblement de la lutte pour eux puisque il y a souvent pour tous ces gens beaucoup de choses à assumer, des familles derrière. C'était le cas pour cette personne et des familles qui croient des crédits, des maisons, etc. Enfin une sacrée galère quoi.
Ok, ok, bah c'est noté, puis on essaiera de vous tenir au courant s'il y a des suites et si le comité de lutte reprend du service sur Continental, sur Clairoy.
Ouais, pas toute l'émission en tout cas.
Ok, merci Tom, ça fait plaisir. Bah écoutez, on a juste le temps de finir cette émission en speed de speed, parce qu'il est déjà un peu plus de 8h30. On va simplement vous rappeler qu'il y a toujours les sans-papiers qui sont au passage d'Aléry, donc commissariat du 11e arrondissement, métro Roy Diderot, suite à l'occupation de la CPAM ce matin. Ils sont faits donc choper par les keufs, un appel à soutien est lancé. C'est donc au passage d'Aléry, commissariat du 11e arrondissement, Roy Diderot ou Voltaire, voilà, je crois, le métro Le Dru-Rollin ou Voltaire, excusez-moi. Il y a aussi, pour vous rappeler, une manif à Saint-Denis demain.
Ouais, parce que la lutte continue avec les personnes qui ont été expulsées de leur logement au 76 Gabriel Péri et au 11 rue des Aubries. Et donc demain, il y a une manifestation à Saint-Denis à 18h. Donc le départ, il est au campement des personnes qui ont été expulsées, des anciens habitants du 76 Gabriel Péri qui campent devant le centre administratif de la mairie, donc place du Caquet, métro Basilique à Saint-Denis, la ligne 13, tout ça. Et donc c'est à 18h demain à Saint-Denis.
Ok, voilà, 18h demain, Saint-Denis. Simplement pour vous rappeler, nos adresses, c'est le www.aufondpresduradiateur.fr, c'est le site internet où vous pouvez télécharger cette émission et bien d'autres. Vous dire aussi que l'émission Sans Papiers ni Frontières, nouvelle émission sur FPP, qui a lieu tous les premiers vendredis du mois, sera téléchargeable sur le site internet de l'émission. Voilà, petit mouvement de solidarité avec les camarades qui ont repris l'émission Sans Papiers ni Frontières. Toute la prochaine, ça sera vendredi 3 février à 19h sur FPP. Et puis notre adresse mail au fond près du radiateur @notirelog.org. Voilà, on passe une grosse dédicace à tous ceux qui étaient là, Mado, Tiffen, Raph, Olive, l'autre Meuto, Mathéo, tous les big up à Sarah, à Tom. Mouloud, à Tom, à tout le monde qui sont pas là, toutes les
Maya, toutes les daronnes, comme d'habitude. Et puis on Antonio. Vous laisse avec Zéro Hebdo. Hein.
Exactement, voilà, Zéro Hebdo tout de suite. Et nous, c'est mardi prochain, 19h.